On vient tout juste de parler du Masters avec Dave Lévesque tout à l'heure, puis Dave regarde ça avec un œil de chirurgien, puis c'est tellement intéressant. Un autre qui regarde ça avec un œil très spécial, puis j'ai appris à découvrir sa passion puis son intérêt pour l'événement qu'est le tournoi du Masters au fil des ans, en se parlant, en parlant un peu plus tôt avec Patrick Lagacé, puis j'ai quand même sursauté Philippe Quentin qui est là. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
J'ai quand même, je savais que t'aimais le Masters, mais quand tu m'as, ben tu l'avais peut-être déjà dit, mais tu m'as rafraîchi la mémoire de dire que c'était probablement ton événement préféré. Tu sais, il y en a là des beaux événements de sport. Puis pourquoi c'est ton événement préféré? Parce que c'est sur 4 jours. Fait que je trouve que c'est plus difficile à placer comme événement préféré entre un match qui fait toute une différence, genre là.
Ben ouais, c'est un bon point effectivement. Mais d'un autre côté, ce que j'aime, c'est un genre de téléroman. Et puis ça commence avec le jour 1, puis ça se poursuit le jour 2, puis ça se poursuit le jour 3. Puis là, on arrive au jour 4. Puis là, on sait que tout ce qu'on a vu là, tout peut voler en éclats parce que tu sais jamais ce qui va arriver sur les 9 derniers trous au tournoi des maîtres. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors ça, c'est certainement un des facteurs. Bon, d'autre part, j'adore regarder du golf professionnel. Je regarde pas tous les tournois pendant l'année, mais les majeurs, je les rate pas. Et des 4 majeurs, comme bien des gens, c'est le tournoi des maîtres qui est mon préféré. Puis il y a le parcours, évidemment. Tu sais, là, c'est sûr que ça va être bien différent cette année parce qu'on est habitué de voir ce parcours-là au printemps avec les magnolias en fleurs et puis tout ça. Là, ça va être autre chose. Je voyais des photos circuler cette semaine. Et puis bon, les arbres semblent magnifiques, des couleurs automnales. Ça va être complètement différent.
Oui.
Je sais pas, il y a une magie, il y a une histoire aussi. C'est toute l'histoire du tournoi des maîtres. Tu sais, les 6 victoires de Jack Nicklaus, Tiger Woods qui en a 5, puis l'an dernier qui est revenu contre toute attente remporter ce tournoi-là. Greg Norman qui s'est écrasé au moins 2 ou 3 fois au Masters, dont une fois où il y avait quoi 5 coups d'avance avec 9 trous à jouer. Tu sais, il y a tellement de grands moments au tournoi des maîtres. Puis je trouve que quand tu arrives là, quand tu l'as suivi tout le long, tu as vu comment chacun se positionnait. Puis là, tu arrives à la dernière journée là. Puis là, est-ce que les nerfs vont tenir? Est-ce que les nerfs des meilleurs vont tenir? L'an dernier, j'aimais beaucoup Francesco, mais je l'aime encore, Francesco Molinari, le golfeur italien.
Oui.
Puis lui là, dans les 9 derniers trous là, il est en très bonne position pour gagner le tournoi. Puis quand Tiger s'est mis à jouer du gros golf, là, avec tout l'appui de la foule, ben les nerfs n'ont pas tenu. T'sais. Il a envoyé des balles à l'eau. Il a fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Alors, c'est ça que je trouve qui est magique au tournoi des maîtres.
Ah, il y en a tellement de moments magiques.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on peut parler des fois, puis revenir dans le passé, quand on est abonné ou qu'on a certains canaux qui nous permettent de revoir, surtout en année de pandémie, on a vu beaucoup de documentaires ou d'anciennes éditions.
On n'a pas seulement vu du Canadien nordique des années 80.
Non, exactement.
Du golf aussi.
On a vu du golf en masse. Je suis curieux de voir, Dave a amené un point intéressant. Il dit qu'on va voir le terrain comme on ne l'a jamais vu et que des golfeurs vont tenter de couper à des endroits où ils tentaient pas de couper normalement parce qu'il y avait peur de faire mal à du monde. Et compte tenu des heures de diffusion avec le soleil qui se couche beaucoup plus tôt, penses-tu que la magie va opérer cette année?
Moi, je suis convaincu que oui. Bon, d'abord, la scène du sport est passablement vide là, à l'heure actuelle. Hein. Oui, il y a le football de la NFL, mais c'est tout. Il n'y a pas de basket, il n'y a pas de hockey. Le baseball est terminé. Tu sais, si tu n'aimes pas la NFL, là, regarde, c'est comme amateur
c'est
de sport. Les journées sont longues.
Ma mère n'aime pas la NFL, puis c'est une grande amateur de sport, puis elle trouve ça plate. Là,
ben, c'est ça. Alors là, je pense que oui, le golf va générer des cotes d'écoute absolument extraordinaire. Et probablement, moi, je pense que ça va être parmi les meilleurs là, qu'ils auront eu. Je peux me tromper parce que depuis le début de la pandémie, c'est le contraire qui s'est produit dans l'ensemble des sports.
C'est
les cotes d'écoute ont été extrêmement décevantes, autant au basket qu'au baseball, au hockey. Au hockey, ça a été, je dirais pas une catastrophe, mais pas loin. La finale de la Coupe Stanley, c'est 60% de chute là, pour l'auditoire par rapport à l'année précédente. Gary Bettman en a parlé d'ailleurs cette semaine, puis il a dit nos fans réguliers, nos passionnés étaient là, mais les fans occasionnels qui s'intéressent à nous en série, ils n'ont pas été au rendez-vous cette année. Ils étaient dehors, ils regardaient du baseball, du football, peu importe. Ils n'étaient pas là. Alors, mais je pense que pour le tournoi des maîtres, compte tenu qu'il n'y a pas cet embouteillage, tu sais, parce que souviens-toi, en septembre, tout à coup, on a eu un moment en septembre, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait un match dans toutes les ligues. Il y avait un match de hockey, un match de basket, un match de NFL, un match de baseball, un match de la WNBA. Tu sais, c'était jamais arrivé dans l'histoire. Et bon, je pense que ça s'est produit une couple de reprises ce printemps, mais c'était un feu roulant. Hein. Il y avait tout le temps du sport. Mais là, il n'y en a pas. On est dans l'attente des autres saisons. Alors, je pense que ça va créer de l'intérêt. Puis l'autre raison aussi, c'est que demain matin, Et demain, toute la journée, il annonce pas beau, Augusta, en Géorgie. Il annonce de la pluie, peut-être des orages, tout ça. Donc, par la suite, ça va se tasser théoriquement là, pour vendredi, samedi, dimanche. Mais tu sais, quand il pleut, puis la pluie, il y a un groupe qui va partir le matin, puis un groupe qui va partir l'après-midi. Qui va être avantagé, qui va être désavantagé selon les conditions météo? Bref, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir beaucoup de mouvements dès demain. Potentiellement des surprises, et ça pourrait mettre la table pour un tournoi super excitant.
En ce sens qu'il y en a qui peuvent se sortir du tournoi en partant. Ouais, hein,
exactement.
Philippe, parce que c'est très, très difficile de faire la coupe. Tiger n'a pas fait la coupe lors du US Open. On surveille tous DeChambeau. C'est peut-être pas le joueur par joueur, justement, là, dans une conversation. Puis, tiens, je te laisse décider d'où qu'on va avec ça. Mm-hmm. Je pourrais t'envoyer peut-être un endroit qui te stimule moins. C'est-tu l'analyse des performances de chaque joueur, DeChambeau, Woods, ou c'est ailleurs que ton intérêt va?
Mon intérêt cette année, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps, c'est les jeunes versus les vétérans. C'est ça mon intérêt.
Ton angle, OK.
Parce que j'ai été tellement impressionné par la victoire de Colin Morikawa au tournoi de la PGA et puis aux performances générales de Matthew Wolff puis de Scottie Scheffler. Là, on parle de trois jeunes joueurs. Là, peut-être qu'il y a des gens qui entendent ces noms-là pour les premières fois. Morikawa, un petit peu, on a parlé de lui parce qu'il a gagné.
Un petit peu plus,
les deux autres, un petit peu moins. Mais tu sais, si on a la même conversation dans 5 ans, Mario, là, tu sais, on va parler de leur chance de remporter le tournoi. Ça va être eux ils représentent l'avenir du golf et dans le cas de Morikawa et Wolff, ils représentent une bonne partie du présent déjà. Et tu as DeChambeau aussi, qui est une histoire extraordinaire en soi, qui est une controverse dans le monde du golf, bien sûr, parce qu'on sait que lui, il a décidé qu'il voulait frapper la balle plus loin. Lui, sa théorie, c'est simple. Plus je la frappe loin, plus j'ai des chances de gagner un tournoi parce que mon deuxième coup va être plus facile. J'aurai moins de distance, je vais pouvoir m'approcher, aller plus vers le fanion. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est mis à manger, puis à s'entraîner, puis tout ça. Alors, il a pris énormément de livres. Puis là, il a déjà dit que pour le tournoi des maîtres, il prendrait peut-être encore un nouveau driver qui est encore plus long, qui lui permettrait de générer plus de puissance.
Ouais,
exactement.
Même longueur que le tien, Philippe. Je ne sais pas.
Je pense qu'on ne génère pas la même vitesse à l'impact.
Non, mais sur quelle longueur? Je ne sais même pas quelle longueur sont nos cocheurs de départ.
Bonne question. Je ne sais pas.
Si, j'aurais demandé à Dave, je n'ai pas pensé.
Si la balle, s'il envoie la balle droite, je suis bien content. mais tu sais, lui, c'est une histoire en soi, Bryson DeChambeau, puis il n'est pas très populaire sur le circuit parce qu'il y a des gens qui disent qu'il dénature le golf, que tu sais, c'est tout le temps, c'est juste la puissance, c'est pas la finesse. Mais écoute, on l'a vu, là, il est capable de faire des coups avec beaucoup de finesse. Sans ça, il n'aurait pas gagné l'Omnium américain il y a quelques semaines. Alors, il y a lui, puis là, tu as aussi un grand retour. Hein? C'est le retour de Brooks Koepka.
Il a été blessé.
Ouais, il a été blessé pendant plusieurs mois et il a joué la semaine dernière. Il n'était pas trop mal et puis donc il pourrait réussir un coup lui aussi cette année. Puis c'est un autre gars qui n'est pas tellement populaire, Brooks Koepka, parce que c'est un gars extrêmement confiant, un peu arrogant. Tu sais, puis un gars comme Rory McIlroy, par exemple, n'aime pas Koepka. Il l'a dit dans des entrevues. Il l'a pas dit comme tel, mais ils sont répondus. Rory McIlroy. Mais McIlroy et Koepka, là, tu sais, dans le temps, là, Jacques Beauchamp aurait écrit dans sa chronique à ne plus inviter au même party. Il aurait mis les deux noms. Alors,
c'est bon.
Alors donc, j'ai l'impression que tout ça, ça ajoute à quelque part. Parce que tu sais, le sport, je trouve que des fois, c'est devenu un peu aseptisé. Tu sais, tu regardes, mais là, je m'en vais à quelque part que j'ai pas prévu, mais tu me fais penser à ça avec ta question. Tu sais, tu regardes au tennis, là. C'est tous des chums. Tu sais, ils s'aiment. Bon, OK, Djokovic, des fois, c'est plus difficile avec Nadal et Federer, surtout si, peut-être un peu plus ces temps-ci, là, parce qu'il veut fonder ou il a fondé
son
propre...
On aime ça, un petit peu d'animosité.
Ouais, mais ça prend un petit peu t'sais, ça.
Écoute, je parlais avec les gars de la Poche Bleue tantôt, puis je lui ai demandé, on parlait des duos de gardiens, puis on veut savoir si en dedans, loin des caméras, si les gars s'entendent bien pour vrai. Fait qu'imagine, on parle de coéquipiers. Fait qu'imagine quand c'est des rivaux comme au tennis ou au golf.
Voilà, tu sais, alors, tu sais, si t'arrives, là, dans la dernière journée, là, puis que t'as trois gars qui sont en tête, OK, qui peuvent gagner le tournoi, OK, je vais même t'en mettre quatre. T'as quatre gars qui peuvent gagner le tournoi, là, sont, mettons, avec trois trous à jouer, sont tous à, mettons, -8.
Là, tu choisis ton préféré.
Ouais, ben non, mais je vais te dire les quatre, là, OK, disons, je vais les nommer juste pour le fun, juste pour l'exercice. Alors, t'as DeChambeau, t'as Koepka, t'as Ricky Fowler, puis t'as Tommy Fleetwood, le Britannique. Là, je peux te dire que à peu près 80 5 % de leurs collègues membres de la PGA. Sinon, 90 % vont prendre soit pour Fowler, soit pour Fleetwood. Il n'y a pas grand monde qui va prendre pour DeChambeau quelque part. Ça, c'est intéressant. Tu
oui. dire, c'est, il y a des gars plus populaires vraiment... que d'autres auprès de, ouais, leur, de leurs camarades.
Ça. Exactement. Exactement.
Ouais. DeChambeau. En tout cas, si DeChambeau devait gagner, je pense qu'il va devenir de plus en plus, là, ça va confirmer qu'il devient le nouveau... En tout cas, on verra, parce que Dustin Johnson, on n'a même pas parlé.
Ben non. Ben non. Regarde, il est là encore, là, Dustin
exactement.
Johnson.
Exactement. Fait que suspense. Mais là, je veux nous garder un peu de temps pour parler d'un sondage que tu as lu avec beaucoup d'intérêt dans The Athletic par rapport à un sondage effectué auprès des amateurs sur leur perception de la gérance, de la gestion des équipes de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que ça donne?
C'est vraiment intéressant. Le Athletic fait ça depuis plusieurs années maintenant. Puis ils font un sondage auprès de leurs lecteurs. Il y a plus de 15 000 personnes ou à peu près 15 000 personnes qui ont répondu cette année. Puis là, ils posent des questions. Tu réponds quand tu es fan de l'équipe. C'est ta perception comme fan, puis il y a aussi des fans à travers l'Amérique qui vont noter toutes les équipes. Alors, bon, le procédé est bien expliqué. Puis là, ils prennent tout ça, puis ils font un classement à partir de ça, avec des points qui sont donnés pour chaque équipe. Qualité du recrutement, gestion du plafond salarial. C'est uniquement des aspects hockey. Là. On ne parle pas de marketing, puis de l'image de marque. On parle de hockey. Comment les DG font-ils leur job? Avec succès, oui ou non? Et là, ils font un classement. Et le classement, cette année, c'est une belle nouvelle pour le Canadien. Le Canadien, qui, au cours des dernières années, là, n'a pas été tellement bien classé dans cette compilation-là. Alors, juste pour te donner l'exemple, en 2016, le Canadien était 29e, 28e l'année suivante, 30e en 2018, 20e...
C'était stable.
Oui, c'était stable. C'était stable du mauvais bord.
Ouais.
20e en 2019. Et cette année, le Canadien pointe au 14e rang. Ah. Alors, donc, c'est une nette amélioration. Les gens de la région d'Ottawa ou de l'Outaouais qui nous écoutent, les sénateurs d'Ottawa sont 21e. Alors, puis les premiers, c'est l'Avalanche du Colorado et on dit que Joe Sakic est le je sais pas, le nouveau Sam Pollock, peut-être le nouveau génie du hockey. Enfin, on verra bien. Mais c'est intéressant de voir comment le Canadien, la perception est tellement meilleure cette année. Puis moi, je regarde ça, puis je dis bravo, je trouve ça bien, je trouve ça le fun. Mais des fois, je me demande si on va pas un petit peu vite en affaires, Mario, parce que, tu sais, quand même, c'est une équipe là qui a pas remporté une série éliminatoire depuis 2015. C'est une équipe qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver, à mon avis, puis je comprends qu'il y a eu de très belles acquisitions. Je pense que la plus importante, à mon avis, en tout cas, c'est certainement celle de Jake Allen comme gardien réserviste. C'est un problème récurrent chez le Canadien depuis tellement d'années. Le second de Carey Price. Alors, je comprends qu'il y ait de l'enthousiasme, mais moi, je pense qu'il y a encore des points d'interrogation. Là, Josh Anderson, moi, je m'excuse, mais peut-être qu'il retrouvera son allant d'avant. Mais j'attends de voir si ce sera le cas. Mais quand même, là, pour le Canadien, si tu es Jeff Molson, tu regardes ça, là, ce classement-là, puis je suis certain qu'il le fait, il doit dire « Hey, pas pire, parce que au niveau de la perception populaire, notre image de marque en tant qu'organisation de hockey, là, je parle uniquement de l'aspect hockey, est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a été, cette image-là, au cours des 4 ou 5 dernières années. Alors ça, c'est un gros plus pour le Canadien.
Et le défi sera de la conserver, cette place-là, et de l'améliorer. Puis tu as raison, on a juste hâte que ça reparte pour pouvoir commenter l'évolution de ça.
Oui,
vendre l'espoir, c'est une chose, puis on est content qu'il y en ait de l'espoir, mais livrer la marchandise sera le défi.
Et
quand il y a plus d'attente, ben, veut, veut pas.
Ben, c'est ça. Si t'es comble, c'est fantastique, mais si t'es comble pas, ben, tu sais, on dit souvent, le vieux proverbe, c'est tellement vrai, la déception est fonction de l'attente. Alors, si c'est pas au rendez-vous, ça va être plus dur. Mais bon, là, quand même, je pense qu'avec le duo de gardien de but que le Canadien va avoir, là.
Ça regarde bien. Ça regarde mieux.
Ça regarde mieux.
Oui, exactement. Philippe, merci beaucoup. On te retrouve demain avec Patrick. Toujours un rendez-vous dès 15h avec Catherine et Patrick Lagacé.
Merci beaucoup, Mario. Bonne soirée.
Merci toi aussi, Philippe. Au revoir.